On lit pour toi. Aujourd'hui, on lit pour toi
les As de l'info. Bon 101e anniversaire, Madame Jeannette. Un texte de Clémence Tessier, Réseau Presse, paru dans les As de l'info. Le 25 mars, Jeannette Bertrand fête ses 101 ans. Voici l'article que nous avions publié l'an dernier pour ses 100 ans. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jeannette Bertrand. Elle fête ses 100 ans. Tu te demandes peut-être qui c'est. C'est une journaliste, actrice et autrice très importante dans l'histoire du Québec. Elle a marqué bien des gens avec son travail et son engagement féministe, entre autres. Pour souligner son 100e anniversaire, je te présente 4 choses que tu dois absolument savoir sur cette femme impressionnante. Psst, psst. Il y en avait tellement à dire que j'ai eu du mal à choisir. C'est une pionnière de la télévision. Jeannette Bertrand a eu un grand impact sur la télévision québécoise à partir de la fin des années 1960 avec l'émission « Quelle famille ?». Elle et son mari de l'époque, Jean Lajeunesse, écrivaient la série et jouaient les personnages principaux. Très peu de femmes écrivaient alors pour la télévision. Tu dois t'en douter, cette série mettait en scène une famille. Mais celle-ci n'avait rien à voir avec celle qu'on voyait habituellement dans les émissions de ce temps-là. Pourquoi? Parce qu'on y présentait une famille où les enfants étaient pris au sérieux. À une époque où les adultes prenaient souvent toutes les décisions sans vraiment écouter les enfants, c'était du nouveau. On y parlait de sujets importants comme l'adolescence, la relation parent-enfant, et l'importance de la communication à la maison. D'ailleurs, 2 des enfants de l'émission étaient véritablement les enfants de Jeannette et de Jean. Quelle famille! C'est le cas de le dire. Elle a fait tomber des barrières. Jeannette Bertrand est une grande féministe. Elle a toujours revendiqué que les femmes soient traitées également aux hommes. Elle n'a jamais eu peur d'aborder des sujets tabous dont personne ne parlait à l'époque. Dans ses célèbres émissions « Parler pour parler » ou « L'amour avec un grand A », elle a touché à des thèmes comme l'homosexualité et même la violence conjugale à une époque où ces discussions étaient presque inexistantes à la télévision. Grâce à elle, plusieurs personnes ont pu s'informer et même se reconnaître à l'écran pour la toute première fois. Jeannette Bertrand a animé l'émission « Parler pour parler » de 1984 à 1994. Sa plume a touché bien des cœurs. En plus de la télévision, Jeannette Bertrand a aussi marqué le monde de l'écriture et du théâtre. Elle a écrit plusieurs pièces de théâtre et publié de nombreux livres. Son talent de conteuse a permis de sensibiliser les Québécois à des réalités souvent mises de côté. Par exemple, dans la pièce de théâtre « Dis-moi-le si je dérange », elle aborde la solitude des personnes âgées. Elle est célébrée partout. Jeannette Bertrand n'a pas seulement marqué la télévision et le théâtre, elle a aussi été honorée pour son incroyable travail. Elle a notamment reçu la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec pour sa magnifique carrière qui a fait progresser les mentalités. Depuis quelques mois, à l'approche de son 100e anniversaire, tout le Québec la célèbre. Couverture de magazines, galas, émissions spéciales, entrevues, Jeannette est partout et elle a encore tellement de choses à dire. Ses récompenses soulignent l'impact énorme qu'elle a eu sur la culture québécoise et c'est bien mérité. Aux As, elle va continuer de nous inspirer pour encore 100 autres années. Si tu rencontrais quelqu'un qui a 100 ans, quelle question lui poserais-tu ?
Ma chère jeunesse, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Ma chère jeunesse, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Ma chère jeunesse.
Des mystérieuses affiches à Paris emballent les fans de Céline Dion. Un texte de Marie Bernier et Mé Durette-Poulain, paru le 25 mars 2026 dans les As de l'Info. Des affiches avec les titres de chansons populaires de la chanteuse Céline Dion sont apparues lundi un peu partout dans les rues de Paris en France. Aussitôt, la rumeur s'est mise à circuler. Céline Dion va-t-elle enfin faire son retour sur scène? Née à Charlemagne, au Québec, Céline Dion est une véritable légende de la chanson. Imagine, au fil de sa longue carrière, elle a vendu environ 250 millions d'albums partout dans le monde. Mais, depuis 2020, Céline Dion n'a plus donné de concerts. C'est à cause de sa maladie. Le syndrome de la personne raide. Seule exception, en 2024, où elle avait été époustouflante à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris en direct sur la Tour Eiffel. Son retour serait donc une très grande nouvelle pour ses fans du monde entier qui l'attendent depuis des années. Des affiches et des indices. Lundi, des affiches ont fait leur apparition à Paris. Elles sont très simples et n'attirent pas le regard. En lettres attachées, on peut y lire les titres des grands succès de Céline Dion comme « Pour que tu m'aimes encore »,« My heart will go on » et « Power of love ». Ça a rapidement suscité beaucoup de questions. Céline Dion a aussi semblé semer des indices. Sur son compte Instagram, elle a publié d'anciennes photos d'elle à Paris. En légende, elle a écrit « Je ne sais pas comment te dire ». Pour certains, ça ne faisait plus de doute. L'artiste allait annoncer son grand retour. Les journalistes enquêtent. Le chroniqueur Hugo Dumas du journal La Presse a été le premier à pouvoir confirmer la rumeur. Selon ses sources, la chanteuse devrait donner 2 spectacles par semaine à Paris l'automne prochain. Son scoop a fait le tour du monde. Puis, Mario Bouliane, journaliste au journal Le Droit, a réussi à obtenir les dates des 10 spectacles. Il a aussi appris que Céline Dion allait confirmer son grand retour le 30 mars, soit le jour de son anniversaire. Tout un cadeau de fête pour cet artiste qui revient de loin. Et toi, si tu devais annoncer ton retour après des années d'absence, comment le ferais-tu?
Je m'aventurerais pour que tu me retiennes. Je me ferais nouvelle pour que le feu reprenne. Je deviendrais ces eaux qui te donnent du plaisir. Pour je serai les nôtres, si tel est ton désir. Plus brillante, plus belle, pour une autre étincelle. Je me changerai en or pour que t'aimes.
Au revoir, Pluton. Bonjour, Sarah-Jeanne. Un texte de Caroline Bouffard, paru le 25 mars 2026 dans les As de l'Info. Alerte à la fantaisie et à la beauté. Un nouveau film québécois prend l'affiche vendredi et il contient tout ce dont on a besoin ces temps-ci. De la poésie, de la douceur et des paillettes. Au revoir, Pluton. C'est un film qui ne ressemble à aucun film que tu as vu. Avec en vedette une actrice que tu n'as jamais vue avant, Sarah-Jeanne Audet. J'ai vu le film et parler à Sarah-Jeanne. Embarquement pour un voyage spatial. De quoi ça parle? La jeune planète Pluton rêve de faire partie de la troupe de danse du système solaire. Oui, oui. Dans le film, les planètes, les astres, etc. sont interprétés par des humains. Pluton passe l'audition avec succès et devient la 9e planète de la troupe. Cette nouvelle vie l'oblige à s'éloigner de ses amis et à s'en faire de nouveau. Mais est-ce que Pluton est assez grande pour être une vraie de vraie planète? Un film qui se sert de l'immensité du système solaire pour parler d'amour, de destin et de danse. Un premier rôle, un premier prix. Sarah-Jeanne, Au revoir Pluton est ton premier film. Comment s'est passée ton audition? J'avais 12 ans et je n'avais jamais joué avant. Je suis arrivé là sans même vraiment savoir ce qu'était une audition. J'ai fait de mon mieux. Comment t'es-tu préparé? Ça devait être intimidant. J'étais un peu stressé. Je devais apprendre une scène, faire une petite chorégraphie d'une quarantaine de secondes et une chanson. Quand je suis arrivé, je me suis dit que je n'avais rien à perdre. Dans le film, Pluton dit « Qui ne risque rien n'a rien ». Et ça m'a vraiment aidé. Parle-moi du tournage. Comme on avait déjà fait beaucoup de répétitions avant, je connaissais les autres acteurs, mais ce qui m'a le plus surpris sur le plateau de tournage, c'est le nombre de personnes derrière la caméra. Il y en a beaucoup plus que les acteurs. Est-ce que tu t'identifies beaucoup à ton personnage? Oh oui! Pluton, c'est moi. Des fois, je regarde le film et je me demande qui aurait pu jouer ce rôle à ma place. Je n'avais presque pas besoin de jouer. On se ressemble beaucoup. Comme moi, elle invente des expressions. Socialement aussi, on se ressemble beaucoup. Tu viens de gagner un prix au Festival international du film pour enfants de Montréal pour ton rôle de Pluton. Comment as-tu réagi? Je ne savais même pas que ce prix existait. J'étais très surprise, mais vraiment heureuse. Pour une première expérience, c'est encourageant. Toi, ta passion, c'est la danse. Oui. J'ai commencé à 6 ans. Et ça fait environ 3 ans que je danse de façon plus intensive, en compétition. Je fais du contemporain et du lyrique. Avant, je faisais aussi un peu de claquette, comme dans le film. Je joue aussi au volley-ball. Au revoir, Pluton. C'est un film doux qui fait rêver. Toi, quel film te fait du bien? J'adore Paddington et aussi chanter. Ce sont mes films doudous. Mon avis sur Au revoir, Pluton. Comme dirait Pluton, OMG pour Oh my Galaxy. Au revoir Pluton est tellement original. Au début, ça prend quelques minutes pour bien comprendre que le Soleil et les planètes forment une troupe de danseurs et chanteurs super populaires. Le système solaire est comme une grosse école fréquentée par des jeunes lunes, des comètes et des petites planètes. On y chante, on y danse et scintille. C'est rempli de brillants et de paillettes. Avec beaucoup d'originalité et de magie, on nous raconte une histoire douce à laquelle tout le monde peut s'identifier. Celle d'une jeune fille qui rêve, persévère, fait des choix difficiles, passe de la surprise à la déception. Et au cœur de cette aventure, il y a la star, Sarah-Jeanne Audet, au sourire plus brillant que le soleil et aux yeux plus pétillants que les étoiles. Un film qui fait du bien. Au revoir Pluton prend l'affiche au cinéma le 27 mars. Et toi, si tu devais incarner un premier rôle au cinéma, ce serait quoi? Et si on réinventait certaines traditions pour qu'elles polluent moins? un texte de Ophélie Delaunay paru dans les As de l'Info. La semaine dernière, Caroline t'a parlé d'une tradition de la Saint-Patrick. À Chicago, une rivière est colorée en vert. Heureusement, le produit utilisé n'est pas nocif pour l'environnement. Mais dans l'équipe des As, on s'est demandé quelles traditions sont plus polluantes qu'on ne le pense. Et par quoi pourrait-on les remplacer? Attention, ce sujet pourrait te donner très envie de fêter. Les feux d'artifice. Les feux d'artifice ont été inventés en Chine il y a plus de 1000 ans. Aujourd'hui, ils sont utilisés partout dans le monde pour célébrer des moments importants. Les fêtes nationales, le changement d'année, des championnats sportifs. Mais ces petits explosifs, faits de poudre noire et de sel métallique qui créent les couleurs, ne sont pas très bons pour l'environnement. Bonne nouvelle, il y a une option plus écologique. Feux d'artifice. Ils polluent l'air et nuisent à la santé en émettant des poussières et des gaz à effet de serre. Ils laissent des déchets au sol et dans l'eau. Ils sont très bruyants et éclairent le ciel au moment où il devrait faire noir. Ça stresse les animaux. Ils peuvent provoquer des incendies. Projection ou drone lumineux. Les drones électriques et réutilisables ou les projections lumineuses polluent peu. Ils ne provoquent pas d'explosion ni de risque d'incendie. Bonus, ils permettent de créer une infinité de formes dans le ciel. Les feux de joie. Au Québec, il est courant de se regrouper autour de grands feux pour célébrer la fête nationale à la Saint-Jean-Baptiste. C'est une tradition vieille de plus de 300 ans. On la retrouve aussi dans d'autres pays. Ces grands feux sont très impressionnants, mais est-ce qu'ils ne sont pas un peu trop polluants? Feux de joie, ils émettent beaucoup de fumée, des poussières et des gaz à effet de serre. C'est mauvais pour notre santé et celle de la planète. Ils peuvent provoquer des incendies, surtout en période de sécheresse. Ils dérangent les animaux qui chassent la nuit. Feux plus petits et encadrés. Ils produisent moins de fumée et moins de gaz à effet de serre. Ils sont moins dangereux. Ils dérangent moins les animaux. Le sapin de Noël. La tradition de décorer un sapin pour célébrer Noël est apparue il y a environ 500 ans en Alsace, en France. Ensuite, elle s'est répandue en Allemagne, puis dans toute l'Europe et enfin en Amérique du Nord. À l'époque, on coupait des arbres dans la forêt, mais maintenant, on achète des arbres cultivés ou encore des arbres artificiels. Est-ce que ce sont de bons choix? Sapin de Noël artificiel. Il est fabriqué en plastique et en métal, souvent en Asie. Ça nécessite beaucoup d'énergie pour le fabriquer et pour le transporter. Il doit être utilisé plus de 20 ans pour être aussi écologique qu'un arbre naturel. Sapin naturel ou sapin bricolé? Le sapin naturel absorbe du CO2. C'est bon contre le réchauffement climatique. Il nécessite moins de transport. C'est encore mieux s'il est cultivé sans pesticides. On peut le mettre au compost ou en faire du paillis à mettre au pied de nos plantes. Encore mieux, créer un sapin avec des objets, des livres, des planches. Les lâchers de ballons et d'autres objets dans les airs. Pendant les mariages, les funérailles, pour célébrer la naissance d'un bébé ou pour d'autres événements, on a toutes sortes de traditions qui consistent à lancer des objets dans les airs. Laisser des ballons, des lanternes ou des confettis s'envoler, c'est joli. Mais ce n'est pas toujours une bonne idée. Lancer des objets dans les airs. Ces objets sont fabriqués avec des matières qui se dégradent mal. Quand ils retombent dans la nature, ils polluent. Les animaux risquent de les avaler ou de se retrouver coincés dans ces déchets. ces objets volants peuvent provoquer des incendies. Bulles de savon géantes, pétales de fleurs, confettis dégradables. Ils ne produisent pas de déchets ou ils se dégradent très vite. Ils ne sont pas dangereux pour les animaux. Une autre idée pour souligner un événement. Planter un arbre, c'est excellent pour l'environnement. Et toi, est-ce que vous avez ce genre de rituel dans ta famille? Lequel? La Bubu, bientôt au cinéma. Un texte de Camille Lopez, paru le 23 mars 2026 dans les As de l'Info. Après avoir conquis les sacs à dos et les sacoches, les pluches, la Bubu, seront les vedettes d'un film. Voici ce que l'on sait pour le moment. C'est le producteur de jouets Pop Mart qui en a fait l'annonce jeudi. On a hâte d'utiliser ces récits pour aider les gens à tomber en amour avec ces poupées, a expliqué une représentante de l'entreprise. Les petits monstres poilus sont entre de bonnes mains. C'est le réalisateur Paul King, derrière Wonka et Paddington, qui sera en charge du film. À date, on sait que le long métrage mélangera des personnages animés à de vrais acteurs. On ne sait pas encore quand sa sortie est prévue. Tout sur le labubu. Un labubu, c'est une peluche chinoise qui ressemble à un lapin monstre. Elle est à la fois adorable et effrayante. Le personnage est attaché à un porte-clés et existe dans une multitude de couleurs. Ses admirateurs collectionnent toutes les teintes, mais attention! Les labubus se vendent dans une boîte mystère. Ça veut dire qu'on ne sait pas exactement lequel on achète. Rare et cher. Comme on ne sait pas ce que contient la boîte, chaque achat est un pari. Et un pari assez cher. Au Canada, un labubu coûte minimum 38 $. Mais ces peluches sont si populaires qu'elles se vendent très très vite. Des gens font la file pendant des heures avant l'ouverture des boutiques pour s'en acheter une. Et puisque le toutou est rare, des gens le revendent 2, 3 et même 4 fois le prix. L'univers foufou de Casing Long. Le papa de la Bubu s'appelle Casing Long. Il a créé le personnage en 2015 pour son livre pour enfants « The Monsters », Les monstres en français. En 2019, il a collaboré avec le magasin chinois Pop Mart pour créer les figurines à collectionner. Mais pourquoi c'est populaire? Deux raisons. La première, plusieurs célébrités comme Rihanna et Lisa du groupe Blackpink ont été photographiées avec des labubus. Elles les attachent à leur sac à main de luxe, transformant ce petit monstre en accessoire fashion. Deuxième raison, sa rareté. Chercher un labubu, c'est comme participer à une chasse au trésor. C'est excitant, mais il y a quand même une grosse différence. Une fois le trésor trouvé, on doit le payer. Les labubus de Sonia. J'ai parlé à une vraie de vraie tripeuse de labubus. Sonia, 54 ans. Je les ai vus pour la première fois il y a 2 ans à Hong Kong et j'ai adoré leur apparence. Mais il n'y en avait plus en magasin. Depuis, j'essaie d'en trouver, m'a-t-elle confié. Elle a finalement acheté sa première peluche en mars. Je lui ai demandé pourquoi elle aimait tant ces figurines représentant un personnage pour enfants. Pour moi, c'est un objet de collection, en fait. C'est beaucoup trop cher pour être un jouet. Sur le site de Popmart, il est indiqué que les Labubu conviennent seulement aux plus de 15 ans. Tu craques pour le Labubu? Tu as peut-être vraiment envie d'acheter un Labubu? C'est normal. La compagnie qu'il fabrique a fait exprès. Notre conseil, prends le temps d'y penser. Économises-tu ton argent pour quelque chose d'autre? Que ferais-tu d'un Labubu? Serais-tu capable de te contenter d'un seul? Voudrais-tu dépenser sans savoir ce que tu achètes vraiment? Et surtout, l'aimerais-tu encore quand ce ne sera plus à la mode? Peut-être qu'après tout ça, tu trouveras que les Labubu ne sont pas si fabubuleux. Il existe même de faux Labubu, les Lafufu. Ils coûtent beaucoup moins cher, mais sont de moins bonne qualité. Et toi, avais-tu entendu parler du Labubu? Que fais-tu quand tu ne peux pas avoir quelque chose que tu veux vraiment? Et si tu pouvais faire un film sur l'un de tes jouets, lequel choisirais-tu? C'était Gilbert. À une prochaine lecture.
C'est tout pour aujourd'hui.
Merci à Gilbert, Christiane, Louise, Mathieu et Carlo.
On se retrouve la semaine prochaine.